orientation scolaire. Mais moi, je fais pas Parcoursup.
Ah bah, c'est sûr qu'ils savent pas ce qu'ils veulent faire. Pas du tout, pas du tout. Il est en école de commerce parce qu'il sait pas ce qu'il veut faire et ça l'orientera. Moi, je suis sorti de... Moi, j'ai fait Dauphine. Je savais pas ce que je voulais faire.
Bonjour à toutes et à tous, quelle joie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Zoom Zoom Zen. 2 heures chaque après-midi pour décrypter notre époque à travers ses mots, ses expressions. Et aujourd'hui, on va se pencher sur un processus qui revient à chaque printemps, comme les hirondelles, les primes verts et la libido de Quentin. La question de l'orientation scolaire. Comment vos enfants sont-ils orientés en 2026? On entend souvent parler, pas toujours en bien, de la plateforme Parcoursup, dont le fonctionnement reste opaque pour beaucoup d'entre nous. Mais ce qui reste opaque aussi, c'est comment se passe l'orientation au sein même des établissements. Où sont passés les conseillers en orientation? Pourquoi ont-ils été remplacés par des psy-EN, les psychologues de l'éducation nationale? Quel est leur rôle exact? Les profs eux-mêmes sont-ils désormais partie prenante dans l'orientation de leurs élèves? On va examiner tout ça. Une chose est sûre, même si tout est loin d'être parfait, on ne peut honnêtement pas dire, comme le répète Cyril chaque midi au bistrot Blériot, que c'était mieux avant. En matière d'orientation scolaire, non, ce n'était pas mieux avant. Il n'y a qu'à voir nous ici. Quentin, mal aiguillé par un conseiller d'orientation à Lançonnet, certainement bourré au calva, s'est retrouvé VRP pour les Cafés Richard alors qu'il avait pourtant un projet professionnel solide. Il voulait devenir star du rock, comme Dick Rivers. Manon. Pauvre Manon, elle qui avait manifesté si tôt des dons de comédienne qui ferait passer Isabelle Huppert pour une actrice de série B. Donc elle distille encore parfois, de ci de là, au détour d'une autopromo bien écrite.
Peu cher, oh bonne mère, oh ça me gêne.
Seul Benoît Magimel dans la série Marseille avait atteint ce degré d'authenticité. Ce malheureux Cyril Lacarrière qui a eu pour seul tort de grandir dans la fureur des années 70, où son principal objectif n'était pas de décrocher le bac, mais de remporter l'élection du meilleur sosie de John Travolta de Ponto Combo.
C'était fait.
Ensuite, quand il eut raté son bac, c'était déjà trop tard. Avec son côté bougon et son regard perpétuellement noir, le conseil d'orientation l'a orienté d'office vers les métiers de la sécurité. Raison pour laquelle il échoua la trentaine passée au portique de sécurité de l'ambassade américaine à Paris. Quant à moi, je ne reviendrai même pas sur la nullité abyssale de mon conseiller en orientation qui, estimant que mon projet de construire des petits sous-marins unipersonnels en taule ondulée était voué à l'échec, m'a simplement dit dans un soupir « Oh bah toi tu feras de la radio ». Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Noël.
Sophie Vénétité, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Vous êtes secrétaire générale du syndicat des enseignants du second degré SNES-FSU. Vous êtes vous-même professeur de sciences économiques et sociales au collège Rosa Parks de Montgeron dans l'Essonne. On vous avait invité l'an dernier pour nous parler du programme éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Mais si on vous reçoit aujourd'hui, c'est pour un sujet qui intéresse tous les adolescents et tous les parents à la veille de la date limite pour formuler ses vœux sur Parcoursup, l'orientation scolaire. Pourquoi ça paraît si compliqué de s'orienter aujourd'hui? Est-ce que l'éducation nationale oriente bien les ados? Qui est en charge aujourd'hui de les aider à faire leur choix? C'est ce que vous allez nous expliquer. Juste le temps de vous présenter deux rescapés de l'orientation scolaire. Elle aurait pu finir quart de finaliste de la Star Academy ou c'est DJ électro défoncé au crack. Lui, s'il était resté VRP pour les Cafés Richard, il serait peut-être aujourd'hui un de ces hommes qui portent un mousqueton à la ceinture pour accrocher leurs clés. Oh mon Dieu, il est ça. Madame Marani, quant à lui, bonjour.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Mais ça peut être très stylé un mousqueton en jean.
Vous le portez plus d'ailleurs en ce moment.
Je le mets que sur un seul jean.
Ah, très bien.
C'est pour un jean qui est fait
dédié.
Pour ça.
Ouais, qui est dédié.
Tout, un look bien dédié.
Tout est pensé chez Quentin lui. Oui. Manon, dans votre pièce jointe aujourd'hui.
Eh bien, un documentaire que m'a conseillé notre programmatrice Claire Sophie. Il suit des petits-enfants en maternelle qui s'interrogent sur le monde d'aujourd'hui et leurs réflexions sont parfois plus intéressantes que celles de certains adultes.
Elisabeth Borne l'avait dit, dès la maternelle, il faut commencer à songer à son orientation. C'est très important. Et vous, estimez-vous que vos enfants sont bien orientés, que l'éducation nationale y consacre suffisamment de moyens? Quentin est allé vous poser la question.
À la rencontre à la fois des parents et des lycéens, pour eux, la terminale, c'est le bac à préparer, plus Parcoursup à gérer, plus le fait d'avoir une idée concrète de son avenir, alors qu'à 17 ans, franchement, on s'en tamponne le coquillard de savoir ce qu'on va faire.
Comme disent les jeunes.
Ils disent souvent ça, les jeunes. Ouais. Tamponnez le coquillard, tendez l'oreille. Bref, un micro-trottoir sur l'orientation scolaire, complètement à la rue, c'est dans la prochaine demi-heure.
Dans une vie, tout peut se jouer à une décision. D'où l'importance de bien réfléchir à son orientation scolaire pour ne pas s'égarer dans une voie professionnelle qui manquerait de débouchés. Par exemple, ses parents avaient bien dit à Cyril que ce n'était pas avec un master de l'université de flûte à bec de Toronto qu'il irait loin dans la vie. Cyril n'a pas écouté. Résultat, aujourd'hui, il est obligé de se lever à 5h du matin pour joindre les deux bouts. Vers 16h30, nous zoomerons sur les diplômes les plus loufoques et les moins utiles qui pourtant existent bel et bien. Après 17h, restez avec nous. Reconstitution de Ligue dissoute aujourd'hui, puisque je recevrai mon vieux complice de C'est à vous, Jérémy Michalak, qui signe un super documentaire sur l'époque mythique des libres antennes. Mais d'abord, Sophie Vénétité, on va donc dresser un état des lieux de l'orientation scolaire aujourd'hui en France. Déjà, pourquoi Parcoursup, depuis sa création, est toujours vécu comme un moment d'angoisse pour les lycéens et pour leurs parents aussi?
Oui, effectivement, Parcoursup, c'est très angoissant pour les élèves et les parents parce que ça a rendu toutes les filières de l'enseignement supérieur sélectives. C'est-à-dire que c'est même les filières qui auparavant ne l'étaient pas, bah, vous devez déposer un dossier, une lettre de motivation qu'on appelle lettre de projet motivé, ce que vous avez fait dans votre scolarité. Et ce sont des dossiers qui sont étudiés pour pouvoir entrer dans des filières qui pourtant n'étaient pas sélectives. Donc aujourd'hui, par définition, avec Parcoursup, l'entrée dans le supérieur est devenue sélective et ça met de fait une grosse pression aux élèves à un âge où finalement ils devraient pouvoir réfléchir qu'à autre chose qu'une décision qui peut les engager pour plusieurs années. Et par ailleurs, on voit bien aussi que le manque de place à l'université renforce le caractère très sélectif de l'accès à l'enseignement supérieur, puisqu'on manque de place pour accueillir tous les élèves. Et ça pèse aussi parce que nos élèves voient bien que finalement, des fois, on leur dit non, tout simplement, il n'y a pas de place.
On va voir concrètement comment ça se passe, l'orientation pour vos enfants aujourd'hui en 2026. Lui, ce n'est pas tant son 4 en mathématiques au bac G qu'il avait fini par avoir à la 3e tentative, qui lui laisse encore aujourd'hui un goût amer en bouche. C'est le fait de n'avoir été désigné que 7e meilleur sosie de John Travolta de Ponto Combo sur le podium du Why Not. J'avais pourtant mis le paquet sur le pento, mais ce concours, c'était magouille et compagnie. Analysera à froid, Cyril, quelques années plus tard.
Jamais.
Cyril, racontez-nous, vous qui n'en aviez toujours pas bénéficié, l'orientation scolaire, d'où ça sort?
Imaginez, c'est le printemps, et autour de la table familiale, on papote à venir, quand soudain, quelqu'un dit le mot qui fâche, Parcoursup.
Quoi? Oh, wow.
À 14 ans ou à 17 ans, on vous pose déjà la question la plus angoissante du monde, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Mais l'orientation, au départ, elle n'a rien de scolaire, elle est professionnelle. En 1928, c'est la création de l'INOP, l'Institut National d'Études du Travail et de l'Orientation Professionnelle. On le doit à un certain Henri Pierron, un pionnier de la psychologie. L'industrie a besoin de bras qualifiés, alors on cherche l'efficacité économique grâce à la psychotechnique. On fait passer des tests de chronométrage, de dextérité ou de logique à des gamins de 13 ans, juste après le certificat d'études. Le but, the right man in the right place, la bonne personne là où il faut. Tu es habile de tes mains à l'usine, tu es bon en calcul à la compta.
Et quand est-ce que ça devient vraiment scolaire?
Pendant les 30 Glorieuses, d'abord en 1959, puis en 1975, avec la création du Collège Unique, le grand moment couperet se déplace à la fin de la 3e. C'est là qu'apparaît le système des filières, voie générale, technologique ou professionnelle. L'orientation n'est plus un conseil, mais un verdict du conseil de classe. Et puis, comme le bac ne suffit plus, il faut trier pour le supérieur, on invente APB, puis Parcoursup. L'orientation n'est plus seulement faite par un conseiller d'orientation, mais aussi par des algorithmes. Alors, d'où ça sort l'orientation scolaire? Eh bien, d'une méthode bancale pour faire entrer des jeunes élèves dans des cases, et ce n'est que le début de notre histoire.
Merci Cyril. Sophie Vénétité, vous dites que vous, professeur, vous êtes en première ligne en ce qui concerne l'orientation des élèves. Ça veut dire qu'en plus d'enseigner, vous devez aussi conseiller les élèves. Maintenant, ça fait partie de la fonction de prof aujourd'hui.
Oui, ça fait partie de la fonction de professeur, en particulier des professeurs principaux qui sont ceux qui accompagnent les élèves, notamment dans leur projet d'orientation. Et de fait, on se trouve face aux questions des élèves, de leurs familles, qui peuvent nous demander un peu n'importe quand dans l'année, dans des réunions parents-professeurs ou à la fin d'un cours. Moi, ça m'est déjà arrivé, qui me disent « Madame, qu'est-ce que je dois faire pour faire tel métier? Est-ce que je dois prendre tel enseignement de spécialité au lycée ?» Et c'est vrai qu'on sent l'angoisse des élèves et des familles qui cherchent à décider de plus en plus tôt, mais aussi le fait qu'elles ne sont pas toutes à égalité dans la capacité à faire le bon choix. Donc les professeurs sont en première ligne, notamment les professeurs principaux, et parfois ils ont en raison des orientations politiques qui ont été prises, pris un peu la place des psychologues de l'éducation nationale, dont c'est pourtant quand même
la mission.
Un rôle
parce qu'il faut
essentiel.
Faire, pour les vieux comme moi, il faut quand même rappeler, moi il y avait des conseillers en orientation, ça n'existe plus.
Non, ça n'existe
plus.
Ça
a été remplacé par des psychologues. Oui. De l'éducation nationale.
Mais qui sont dédiés à l'orientation, ces psychologues
oui. Pas, sont pas seulement. Que... C'est-à-dire que, comme le nom l'indique, il y a désormais une dimension psychologique assez, assez importante. Et on sait qu'aujourd'hui, on a aussi besoin de ce regard-là, vu l'état de nos élèves. Mais il y a toujours cet accompagnement, cette information sur l'orientation. Là aussi, le problème, c'est que ces collègues ne sont pas assez nombreux. Aujourd'hui, en moyenne, vous avez un psychologue de l'éducation nationale pour 1600 élèves. C'est la moyenne aujourd'hui en France. Et ces personnes sont sur plusieurs établissements. Donc concrètement,
ah bon, par exemple, il n'y en a pas un par établissement.
Non, il n'y en a pas un par établissement. Ils doivent couvrir deux ou trois établissements, être dans leur ce qu'on appelle CIO, le centre d'information et d'orientation. Moi, par exemple, je suis dans un établissement où il y a des psychologues de l'éducation nationale sur certaines demi-journées, mais sur d'autres demi-journées, ils ne sont pas là, pas parce qu'ils sont en train de se tourner les pouces, mais parce qu'ils sont dans le collège d'à côté. Et vous imaginez bien que dans un établissement scolaire, ça tend aussi un peu les choses pour suivre tous les élèves. Mais voilà, c'est un psychologue de l'éducation nationale pour 1600 élèves.
Mais vous, en tant que prof principal, c'est à la fin du cours ou alors pendant les rendez-vous parents-prof, il n'y a pas un temps défini à ça?
Alors, comme souvent dans l'éducation nationale, il y a ce qui est écrit dans les textes qu'on nous donne et puis il y a la réalité. Là, par exemple, dans les textes officiels, on devrait avoir, par exemple, au lycée 54 heures d'orientation par an pour les élèves. Et dans les faits, ces 54 heures n'existent pas parce que nous n'avons pas les moyens de le faire. Donc, on se retrouve à bricoler où, effectivement, à la fin du cours, il y a un élève. Là, par exemple, on est dans les conseils de classe du deuxième trimestre. Moi, j'ai des élèves avant les vacances qui sont venus me voir en me disant « Bon, bah madame, je pense que je vais prendre la spécialité sciences économiques et sociales. Avec ça, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et en fait, on bricole parce que c'est la fin du cours. Lui doit aller ailleurs. Moi, je dois aller voir une autre classe. Et c'est ça, aujourd'hui.
C'est pas noté dans un emploi du temps, quoi.
Non, pas officiellement.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
La secrétaire générale du syndicat des enseignants du second degré SNES FSU, Sophie Vénétité, est toujours avec nous pour parler orientation scolaire cet après-midi. Alors, le problème, j'ai l'impression, c'est qu'on demande toujours plus tôt aux jeunes de savoir ce qu'ils voudront faire plus tard. Et là, on a une équation qui est compliquée, parce qu'à 15 ans, on ne sait pas du tout ce qu'on voudra faire à 25, enfin, la plupart des gens.
Oui, voilà. Aujourd'hui, on demande aux élèves, dès la classe de seconde, de choisir des spécialités, c'est-à-dire les enseignements qui seront un peu les enseignements majeurs en première et en terminale. On leur demande d'en choisir trois pour la classe de première, et ces choix-là les engagent pour deux ans. Par exemple, ils vont prendre les spécialités mathématiques, physique, chimie, SVT, et ça les engage pour l'année de première. À la fin de l'année de première, on leur dit, tu dois n'en garder que deux, mais ils ne peuvent pas dire je change complètement. Ils ne peuvent pas dire à la fin de l'année de première, finalement, je vais faire de l'anglais et des sciences économiques et sociales. Et
donc, il ne faut pas se tromper.
Voilà, il ne faut pas se tromper. Et on parle d'élèves à la fin de seconde qui ont 15 ou 16 ans. Et il faut aussi qu'ils aient en tête que les choix qu'ils font doivent être doivent correspondre à leur futur choix dans Parcoursup. Parce que ça comptera beaucoup dans Parcoursup.
Est-ce qu'il faut mettre quoi concrètement dans Parcoursup?
Dans Parcoursup, il faut faire des choix. Par exemple, je veux faire une licence de droit à Paris, à Évry, ou je veux faire tel diplôme court. Et en fait, dès la classe de seconde, il faut se dire, je vais prendre telle spécialité parce que dans Parcoursup, je voudrais faire telle ou telle formation. Et donc, aujourd'hui, on demande à des élèves de 15 ans, en seconde, qui viennent d'entrer au lycée, de choisir ce qui va les engager pour deux ans, mais même pour le post-bac. Et ça devient une telle pression qu'ils passent leur année à penser à ça. Moi, par exemple, j'ai des élèves cette année, enfin, ça fait deux, trois fois je m'en rends compte, à la fin du mois de septembre, ils viennent me voir, ils me disent « Madame, c'est bon, on sait, on va choisir les sciences économiques et sociales. » Alors, je leur dis « Ok, merci, c'est bien, mais ça fait trois semaines qu'on est là. Vivez aussi un peu votre vie de lycéen. » Eh ben non, parce qu'on leur dit tout de suite « Il faut quelle spécialité tu veux faire dans l'objectif de ton orientation post-bac. » Alors que par définition, c'est normal, moi c'est ce que je leur dis toujours, c'est normal à 16 ans de ne pas savoir ce qu'on veut faire.
Alors on le voit, vous nous le racontez, les profs sont en première ligne, vous aidez vos élèves à s'orienter. J'aimerais qu'on dise un mot de ces psychologues, ces psy-EN, les psy éducation nationale, c'est comme des conseillers d'orientation. Donc on va les voir, mais on va les voir comment? Vous dites il y en a un pour 1800, c'est-à-dire que chaque élève va en voir un à un moment de sa scolarité ou pas du tout? C'est à la demande de l'élève?
C'est à la demande de l'élève, c'est-à-dire que nous on peut conseiller aux élèves qui ont parfois aussi des questions auxquelles on ne sait pas répondre, parce que c'est pas notre mission principale et c'est pas notre métier de tout connaître sur l'orientation, d'aider un élève aussi à construire un processus d'orientation, parce que ça engage aussi des réflexions personnelles que nous, on maîtrise pas forcément. Donc, on peut conseiller à l'élève d'aller voir un psychologue de l'éducation nationale qui a généralement un bureau dans le collège ou dans le lycée, ou alors de les rencontrer au centre d'information et d'orientation, le CIO. Sauf que, bah, il peut y avoir embouteillage. Hein. Là, par exemple, en ce moment, on est orientation des secondes, orientation des premières, orientation des terminales. Vous avez le psychologue de l'éducation nationale qui ne peut être là que un ou deux jours dans la semaine. Parfois, il y a des élèves qui les voient pas tout de suite.
Mais du coup, concrètement, il faudrait qu'il y en ait combien des psychologues pour que ce soit efficace? Un par établissement, voire plus?
Bah, nous, on a compté qu'il en faudrait, il faudrait un psychologue de l'éducation nationale pour 600 élèves dans deux établissements maximum. Voilà, nous on a estimé en connaissant les établissements que c'est ça
qui est déjà pas beaucoup quand même.
Ce qui est déjà, mais au moins qui permettrait de répondre assez vite aux élèves. On n'en prend pas le pli, puisque il y a depuis 2017, il y a eu 500 suppressions d'emplois de psychologues de l'éducation nationale.
Et en fait, en fusionnant la fonction de psychologue avec celle de conseiller en orientation, on a aussi fait des économies.
Oui, il y a forcément une logique économique. Il y avait aussi une logique de construction du parcours de l'élève, c'est-à-dire de pouvoir écouter l'élève, de voir quelle est la construction de son projet, de voir quelles sont aussi les différentes dimensions dans la construction du parcours. Il peut y avoir des dimensions psychologiques, personnelles, etc.
Il n'y avait pas assez d'écoute avant, pensez, dans les conseillers d'orientation. On les a souvent critiqués, d'ailleurs.
Oui, ils ont souvent été critiqués, assez injustement, il faut bien le dire, parce que leur fonction n'est pas simple. Et c'est vrai que c'est pas évident d'avoir comme ça des élèves qui vous racontent leurs envies, leurs rêves aussi, et on vous dit il faut les faire rentrer dans les cases de l'orientation. De manière générale, et pas seulement de la part des psychologues de l'éducation nationale, mais l'éducation nationale manque quand même de capacité à écouter et à accompagner les élèves avec les personnels suffisants.
Lui, à son époque, il n'y avait pas de psychologue éducation nationale, si bien que personne ne l'ayant jamais aidé à surmonter ses névroses, il lui arrive aujourd'hui de craquer à l'antenne en imitant Daniel Guichard.
Dans son vieux, par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit
Arthur
matin.
Arthur Teboul, vraiment, on dirait Arthur Teboul.
Il y a de ça.
Il y a du feu Chatterton chez Daniel Guichard
et chez vous, Quentin. C'est dingue. Quentin, une fois de plus, vous êtes allé à la rencontre des passants que vous avez interrogés sur ce processus d'orientation scolaire.
Et ma première rencontre, ce sont ces deux lycéennes qui marchent côte à côte. Leur sac est à mi-chemin entre le sac à main et le sac de cours. Quand j'arrive avec le micro, elles sont surprises, elles se regardent et éclatent de rire. Bonjour.
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 Quels sont vos prénoms?
Juliette.
Marina.
Vous avez quel âge?
17 ans.
16.
Ouais. Et vous êtes en retard.
Et on est en retard, oui.
Oui.
Vous avez quoi comme cours, là?
Physique.
Moi, j'ai histoire.
Elle découvre le mot du jour de Zoom Zoom Zen.
Orientation scolaire.
De quoi on parle?
De l'orientation scolaire.
Moi, personnellement, je sais pas vraiment, mais...
Qu'est-ce que t'as envie de faire, toi?
Plus de la com, de la communication.
Est-ce que c'est flou?
Oui, moi, oui, très flou.
Pourquoi?
Parce que j'ai beaucoup d'idées en tête, et je sais pas vraiment dans quoi me spécialiser.
Avec qui t'en parles?
Mes parents et mes amis.
Et au lycée, avec personne?
Non, pas vraiment.
Et non, personne au lycée. Les conseillères d'orientation n'existent plus. En même temps, on en a tellement ri qu'elles en ont disparu. Alors, à qui les ados peuvent en parler?
Les professeurs sont pas vraiment à l'écoute de ce qu'on veut faire plus tard.
Bah, ils ont d'autres choses à faire aussi. Enfin, ils doivent préparer leur cours à eux, pour nous.
Il faudrait, ça?
Oui, je pense. Ça serait bien que, surtout le professeur principal, prenne du temps pour faire une heure de vie de classe, qu'on n'a pas vraiment en plus, hein. Pour nous demander ce qu'on veut faire plus tard et nous poser des questions sur comment est-ce qu'on, où est-ce qu'on en est. Enfin, personnellement, ça me fait un peu peur. Les études supérieures, il y a beaucoup de responsabilités à prendre. Ça fait un peu stressé.
Ma deuxième rencontre, c'est une autre lycéenne, un peu plus âgée. C'est elle qui vient vers le micro, intriguée par ce qu'on raconte.
Bonjour.
Quel est votre prénom à vous?
Elsa Soufsir.
Elsa, elle a le même âge que toi, en fait?
Non, j'ai un an de plus. Je passe le bac.
Et en terminale, cette fois. Et ça change tout à cet âge-là. On sent tout de suite qu'elle est dans cette année charnière où l'on doit décider de la suite.
Orientation scolaire.
T'es en plein dedans, toi?
Ah oui. Mais moi, je fais pas Parcoursup. Enfin, je l'ai rempli, mais je fais une école à l'étranger.
Alors, parle-moi de ça. T'as choisi, en fait, de pas faire Parcoursup?
Non. Parce que je me vois plus vivre loin de mes parents pour mes études. Prendre mon appart, tout ça. Être autonome, quoi.
Tu vas aller où?
Je vais à Madrid. Faire une école de dentaire.
D'accord, mais alors, mais comment elle va faire? Je veux dire, même financièrement.
Mes parents m'ont pris un crédit.
Tu sais à combien?
Ça monte jusqu'à plus de 70 000 euros. Pour 6 ans d'études, 5 à 6 ans d'études. Faut pas que je redouble des matières, parce que quand tu redoubles une matière là-bas, c'est 2 000 euros de plus. Donc ça coûte cher, mais après c'est moi qui le rembourse quand je serai dentiste, quoi. Donc ça te met une pression, ouais.
Ma dernière rencontre, c'est un papa. Une vraie tête de daron, à peine 48 ans, les cheveux coiffés vers l'arrière, un casque de scooter à la main, les yeux clairs, une barbe de quelques jours et le polo bien coupé. Il s'appelle Charles. Et je lui parle de...
Parcoursup, bah, c'est l'accompagnement qui est hyper important. Hein. Moi, mes enfants, on a été accompagnés par quelqu'un dont c'est le métier.
Comment ça? Parce qu'il n'y a plus de conseillère d'orientation.
Eh bah, c'est les nouvelles conseillères d'orientation, probablement. On a été accompagné, mais...
Par quelqu'un de l'établissement ou quelqu'un...
Non, quelqu'un qu'on a payé pour faire ça. Donc qui les aide dans l'orientation, qui les aide à écrire les lettres de motivation, parce que tout ça c'est géré par des algorithmes et des IA, donc elle connaît par cœur le sujet.
Mais alors le lycée en lui-même, il n'accompagne pas suffisamment ?
Non, mais parce qu'ils ont été... Alors moi je trouve quand même pas mal accompagnés par l'école. C'est-à-dire, nous on a eu des réunions à l'école qui nous expliquaient comment la plateforme fonctionnait, comment ça allait marcher, quelle était la temporalité... Donc ça a plutôt...
Et en plus, vous avez pris quelqu'un.
Et en plus, on a pris quelqu'un, pour être très honnête, pour se décharger un peu de...
En tant que parent, bien sûr.
En tant que parent, gagner un peu de temps, et voilà. Et
ça coûtait cher, une personne comme ça?
Bah, c'est relatif. Moi, je trouve que non, pour l'apport, ça nous a coûté 500 euros. Et 500 euros pour l'aider dans ses choix, l'aider dans les vœux, l'aider dans les lettres. Donc c'est pas mal d'argent, évidemment, mais pour le confort et surtout la certitude de ne pas se tromper, j'ai pas trouvé ça très cher, moi.
Il termine en repensant, lui, à son propre parcours.
Mais honnêtement, à mon époque, il n'y avait pas tout ça. Donc il n'y avait pas cette espèce de grande plateforme pour organiser tout ce truc-là.
Est-ce qu'on leur demande trop jeune?
Est-ce qu'on leur demande trop ou trop jeune?
Trop jeune de savoir ce qu'ils veulent faire.
Ah bah c'est sûr qu'ils savent pas ce qu'ils veulent faire.
Et le vôtre, il savait pas ce qu'il voulait faire?
Pas du tout. Il est en école de commerce parce qu'il sait pas ce qu'il veut faire et ça l'orientera. Moi, j'ai fait Dauphine. Je savais pas ce que je voulais faire. Et puis, de manière un peu empirique, j'ai été vers un métier, mais ils savent pas.
C'est quoi aujourd'hui?
Je dirige une agence de communication.
Ouais. Sur Internet, dans des cabinets privés, à 500 euros, on peut accompagner son ado pour relire un dossier, choisir les bons mots, écrire les bonnes lettres de motivation. L'orientation est devenue un service comme un autre. Et dans cette nouvelle école parallèle, certains élèves ont simplement plus de moyens que les autres.
Sophie Vénétité, et vous êtes surprise parce que le témoignage de ce papa, ce Charles, qui a embauché donc un conseiller d'orientation privé, finalement, pour l'aider à naviguer dans Parcoursup.
Je ne suis pas complètement surprise. On sait que ça existe et que, quelque part, Parcoursup a aussi généré une forme de marché de l'angoisse dans lequel certaines entreprises privées se sont engouffrées. C'est effectivement avec parfois des stratégies marketing qui consistent à placarder leur publicité à côté des lycées en 4 mètres sur 3. C'est bientôt Parcoursup. On va vous aider avec effectivement ces prix-là. Hein. J'ai regardé 500 euros pour quelques séances d'accompagnement. Ça peut monter jusqu'à près de 997 euros. Pour être complètement accompagné. Donc il y a
après ça fait peur en tant que parent quand
bien sûr
de l'IA quand il parle de l'intelligence artificielle, il faut trouver les bons mots, les bons codes pour cette plateforme là, donc peut-être que c'est utile.
Mais ça crée des inégalités.
C'est certainement utile individuellement, mais après regardons pour l'ensemble des élèves, on sait très bien que toutes les familles ne peuvent pas payer 500 à 900 euros pour que les élèves soient accompagnés et pour quelque chose qui relèverait normalement de l'éducation nationale si elle y mettait les moyens et l'ambition. Et aujourd'hui, c'est vrai que Parcoursup a créé une angoisse parce qu'elle demande aux élèves à choisir très tôt, de par le fait que les filières sont devenues sélectives et il n'y a pas suffisamment de place. Et on voit bien qu'il y a aussi une angoisse sur l'avenir des élèves, que vont-ils devenir après professionnellement, etc. Et c'est ce véritable marché de l'angoisse dans lequel certains se sont engouffrés.
Mais est-ce que ça ne fait pas aussi la part belle justement aux écoles privées? On l'a entendu dans le micro-trottoir avec cette jeune fille qui part à Madrid, qui s'endette, qui prend un prêt. Est-ce que justement tout ça ne profite pas derrière à ces écoles, quoi?
Ah bah, Parcoursup et la logique de diminution du nombre de places dans le supérieur en raison du manque de moyens. Aujourd'hui, il faut quand même rappeler qu'il y a 80% des universités qui présentaient un budget en déficit à la rentrée 2025. Un budget en déficit, ça veut dire que vous devez réduire le nombre de places pour essayer de rééquilibrer votre budget. Donc vous n'avez pas assez de places dans l'enseignement supérieur, notamment les universités. Vous avez cette espèce d'injonction à trouver très vite quelque chose. Bah, là aussi, vous avez des écoles privées, mais qui relèvent vraiment de la logique privée lucrative, qui proposent des formations qui sont extrêmement, extrêmement chères et qui parfois ont aussi des pratiques du privé. Il y a eu des enquêtes, notamment journalistiques, sur le groupe Galiléo, qui est le groupe qui est leader sur ce segment de marché, puisque c'est devenu un marché, qui pratique par exemple le surbooking. C'est-à-dire qu'il prend, enfin, exactement comme vous avez une compagnie aérienne qui fait du surbooking, bah là, ils prennent plus d'inscrits en se disant, mais de toute façon, il y en a qui ne vont pas venir parce qu'ils ont autre chose, etc. Mais tout le monde aura payé.
Je reviens sur Juliette et sa copine, les premières personnes que j'ai rencontrées dans la rue. Elles ont 17 ans. Elle me dit j'ai envie de faire de la com. Et en même temps, quand elle me le dit, je vois dans ses yeux qu'elle n'y croit pas vraiment. Est-ce que c'est quelque chose que vous entendez, de la com, du droit, des écoles de commerce? Qu'est-ce qu'on répond dans ces cas-là, quand on a 17 ans?
C'est la réponse très courante chez des élèves de 15-16 ans. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux faire de la com, je veux faire du commerce, je veux faire de la publicité, je veux faire du droit. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de poser un peu les questions aux élèves. Mais qu'est-ce que tu veux faire qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Moi, souvent, je dis aux élèves, ils me disent, je veux faire de la com. Bah, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? C'est-à-dire derrière. Alors, soit il y a ceux qui disent, je sais pas. Donc là, on leur montre l'éventail de ce qu'est la communication ou le commerce. Et c'est très large, soit bah, ils ont des idées un peu plus précises et on creuse comme ça.
Mais jusqu'au stage, j'allais le dire, parce qu'il y a quand même une nouveauté, c'est que maintenant on peut faire des stages en seconde.
Oui.
Est-ce que ça aide?
Ça aide, oui et non, parce qu'on voit bien que ces stages, ils sont aussi... déjà, tous les élèves ne trouvent pas de stage. Ça, c'est aussi une réalité, que le stage est aussi souvent corrélé au carnet d'adresse des parents. Le stage reste quand même une pratique très, très inégalitaire. Après, il y a des élèves qui peuvent dans le stage, comprendre un peu mieux la réalité d'un milieu professionnel. Généralement, le stage, quand il est bien trouvé, bien fait, il sert à ça. Après, pour le reste, ça reste encore un peu très, très compliqué à construire pour les élèves.
Est-ce qu'il y a des élèves qui vous disent qu'ils veulent devenir influenceurs?
Oui. Bien sûr, il y a des élèves...
Vous les orientez dans ce cas-là?
Vous les orientez comment?
Non, mais moi, ça m'est arrivé l'année dernière, un élève qui m'a dit « Mais qu'est-ce qu'on prend comme spécialité à la fin de la seconde pour être influenceur ?» Alors, c'est le seul à quoi je lui ai dit « Mais est-ce que pour toi, influenceur est un métier ?» Il m'a répondu « Oui, parce qu'on gagne de l'argent. » Donc, après, je vous passe le reste de la discussion sur le métier, l'argent, les revenus, etc. Mais on explique que ça permet de gagner de l'argent, mais c'est pas forcément un métier. Mais quelque part, c'est aussi ce que certains recherchent.
France Inter, Zoom Zoom Zen.
Si les conseillers d'orientation avaient bien fait leur job à l'époque, je ne serais pas là aujourd'hui à ce micro. Je serais à la tête d'un chantier naval spécialisé dans la fabrication de sous-marins nucléaires. Qui sait, en ces temps troublés, j'aurais peut-être même eu droit à la visite du président Macron, à qui j'aurais pu serrer la main. Au lieu de ça, je suis là, avec vous. Foutu destin. Ouais. Pour oublier tout ça, jouons au Zoom Zoom Test.
Vous avez oublié de rappeler que vous avez fait Sciences Po, vous le dites souvent,
oui,
ça.
Oui, c'est marrant,
c'est vrai, ça.
Cyril ne l'a pas dit non plus.
Ouais.
C'est très rare.
Je vous laisse quel intérêt pour l'émission.
Je sais pas votre parcours scolaire.
Oui, mais ça n'a pas d'intérêt.
Brillant.
C'est l'heure du test. C'est l'heure du
Bien.
À la découverte aujourd'hui des voies de garage les plus loufoques que seuls les plus audacieux conseillers en orientation auront proposé à leurs élèves. Un quiz que je dédie évidemment à notre nouveau stagiaire. Une semaine maintenant que le jeune Anatole nous a rejoint. Loin de moi l'idée de lui mettre la pression, mais il aura la lourde tâche d'être à la hauteur de ses illustres prédécesseurs stagiaires, Lola, Pénélope et l'iconoclaste Valentin. Véritable couteau suisse des passions, encore plus calé que Quentin en chanteur mort, tenant plus l'alcool que Manon, Valentin avait également, souvenez-vous, un kink pour les sabres japonais.
Oui,
passion qui aurait pu le mener à l'université de Mie, sur l'île d'Honshu, au Japon, où vous pouvez décrocher une certification en criminologie spécialisée Yakuza, un master d'affûteur de couteaux traditionnels japonais, ou un diplôme de ninja.
B. Ninja.
Diplôme de ninja. Pensez vraiment à Manon qui
pensait ça. Ça veut dire que c'est ça.
Vous me connaissez parfaitement, c'est la réponse, c'est effectivement.
Il n'y a pas un diplôme d'affûteur de couteaux?
Plus jamais vous ne soupirerez quand votre ado vous dira qu'il veut s'orienter en fac de psycho, car vous savez maintenant que ça pourrait être pire, il pourrait vouloir devenir ninja. Oui, malgré une absence assez flagrante de débouchés, l'université de Mie au Japon a créé en 2017 un master ninja, dont un certain Genichi Mitsuhashi sera le premier diplômé. Je sais qu'un vrai ninja ne perd jamais son calme, mais m'avoir comparé à votre stagiaire Valentin qui chantait du Joe Dassin, ça m'a énervé. Bon, dis donc Genichi, pas très ninja de s'énerver comme ça. Mais peu importe, car nous quittons le Japon, direction les États-Unis.
On l'embrasse, hein, évidemment.
On embrasse Valentin.
Ah, et on salue cette prestation théâtrale, parce que
c'est franchement là.
Oui, c'est effectivement.
C'est bien joué.
Vous voulez moins deux ou quoi?
Pas du tout, je suis en train de saluer.
Vous cherchez la punition? Vous cherchez
pas.
Le coup de fouet? Le coup de bâton? Très bien. Je vous le donnerai, mais après le quiz. Partons pour les États-Unis, le pays de tous les possibles, Land of All the Possibles, comme le disait Cyril à l'issue de son Lacar News sur YouTube, dans lequel il avait donné 7 prononciations différentes de leur dernier album, dont aucun n'était la bonne. Les États-Unis, donc, où on trouve pléthore de cursus étonnants, pour ne pas dire un peu zinzin, comme culture du cannabis à l'université d'Oxford, la place des zombies dans les médias populaires à l'université de Baltimore, du très classique. Mais il y a pire, parmi les formations suivantes, laquelle ou lesquelles existe vraiment. Expertise en cornemuse à l'université Carnegie Mellon, située à Pittsburgh.
L'étude des traditions scandinaves et vikings à l'université Cornell d'Ithaca dans l'état de New York, ou gestion et technologie de l'industrie du bowling à l'université de Vincennes dans l'Indiana.
Oh là là. Les trois.
A et B, il y a plusieurs choix.
J'ai dit
A et B.
Les trois.
C'est une bonne réponse de Manon Marioni.
Ah, yes.
C'est une bonne réponse. C'est quasiment une bonne réponse de Manon Marioni parce que la B était à Louvain, mais c'était un piège perfide, donc je vous accorde le point. Les trois existent. Il existe bien aux États-Unis un master bowling. Dommage que Cyril ne l'ait pas su à l'époque où il cherchait encore sa voie. Il ferait un formidable tenancier de bowling qu'on imagine forcément bourru et taciturne, passant ses soirées à gueuler contre les filles qui oublient d'enlever leurs talons sur la piste. Et ça nous permettrait enfin de faire cette.
J'imagine avec les petites chaussures là.
Oui, ça irait bien. Et ça nous permettrait enfin de faire cette soirée team building, vu que la sortie karting organisé par Quentin a autant de chances d'arriver un jour qu'un petit carnet de courade qui ferait vraiment moins d'une minute.
J'ai trouvé
mais
un
attention,
bowling.
Oui, vous avez
dans le cinquième.
Un bowling
rue Mouffetard.
Mais personne ne vous avait demandé un bowling.
Bah quand vous si, on a changé.
Si, j'ai trouvé. Il y a
cinq pistes. C'est noté. Attention, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Quand vous saurez qu'au pays de Donald Trump et des bâtonnets de beurre frit, on peut également apprendre la philo grâce à Chuck Norris, apprendre la philo grâce aux Simpsons ou apprendre la philo grâce à Star Trek.
Ah, Chuck Norris.
B.
Non.
C.
C'était les réponses B et C. Et oui.
Il faut dire quand c'est à chômage.
Pour des frais de scolarité annuels équivalents à 12 mois du loyer du nouvel appartement de Manon, vous pouvez à Berkeley suivre un cours d'introduction à la philo grâce à l'univers des Simpsons. Alors qu'à la prestigieuse université de Georgetown, vous pouvez associer philo et Star Trek. Linda Wetzel, en charge du programme, explique très sérieusement que dans un épisode de Star Trek où deux personnages échangent leur corps, c'est l'occasion d'examiner la philosophie dualiste selon laquelle nous sommes composés de deux substances. Quentin, vous levez les yeux au ciel, je sais que pour votre esprit étroit, quand deux personnes échangent leur corps, c'est.
La bouillarde.
Eh ben non, c'est la philosophie dualiste. Mais quittons les États-Unis, revenons en France.
Attention,
où un spécialiste a si bien résumé la situation dans sa chanson, que dis-je, sa chanson, son chef-d'œuvre, le bac G.
Vous passiez un bac G, un bac à bon marché.
Et pourtant,
c'est
Michel,
ça,
oui.
Dans un lycée poubelle,
The Voice.
Des horizons bouchés.
C'est pas possible.
Et pourtant,
non,
Michel,
Banger,
avec toute l'estime qu'on vous doit, enfin surtout Cyril, vous devriez savoir que grâce à Parcoursup, l'orientation est devenue un immense champ du savoir, où chaque filière est un ruisseau venant nourrir le grand fleuve des connaissances. Tenez par exemple, vous savez ce qu'il y a à Charleville-Mézières ?
Le gros Bershka.
Non, probablement aussi, mais non. À Charleville, il y a l'ESNAM. L'ESNAM où en 3 ans, on peut obtenir son diplôme de quoi ? D'apothicaire médiéval ? D'acteur marionnettiste ou d'architecte métavers.
B.
Ah, je voulais dire B. Bon, A.
C'est une bonne réponse de Quentin, lui. Ça arrive tellement rarement.
Eh oui.
Bravo, mon Quentin. Trop méconnu. Trop méconnu. École supérieure des arts de la marionnette, accessible via Parcoursup, où vous pourrez suivre les disciplines suivantes. Jeu de l'acteur, voix, mouvement du corps, art plastique, pratique instrumentale, chant, histoire du théâtre, langue vivante et des stages auprès de professionnels de la marionnette et des arts du spectacle. Ouais. Pourquoi pas un doc de cracheur de feu, peste en régie Cyril, qui en a décidément trop entendu aujourd'hui. Triomphe des savoirs éclectiques et victoire de Manon. Désolé, Quentin. J'ai cru que pour une fois, vous alliez remporter la mise, mais non. C'est
pour
vous,
le
Manon.
Jeu d'acteur dans le quiz, allez faire un petit tour à Charleville-Mézières. Ça fera pas de mal.
Très bien, Quentin. Vous démarrez le quiz de demain avec 10 points de pénalité. Et toi, tu veux faire quoi plus tard ? Ne répondez pas, constructeur de sous-marins, personne ne vous prendra au sérieux. Sophie Vénétité, secrétaire générale du syndicat des enseignants du second degré, est toujours avec nous pour zoomer sur la question cruciale de l'orientation scolaire. Vous êtes vous-même prof, on l'a dit, et vous nous avez parlé déjà du stress que les élèves ont à l'approche des échéances de Parcoursup. Est-ce que ce stress, vous sentez qu'il augmente au fil des années ?
Oui, clairement, il a augmenté avec Parcoursup, avec la réforme du lycée qui demande aux élèves de choisir de plus en plus tôt. On voit bien aussi que nos élèves vont plus mal hein, depuis quelque temps. On parle beaucoup de santé mentale, d'élèves aussi qui ressentent le poids du contexte actuel, la difficulté à se projeter vers l'avenir, vers le monde qu'on leur prépare. Et tout ça mis bout à bout fait qu'effectivement, on sent un grand stress, une grande angoisse chez les élèves, des élèves qui ne vont pas bien au mois de janvier-février, quand on est sur Parcoursup, quand on est sur les choix de spécialité en fin de seconde, c'est quelque chose qu'on vit désormais quasiment tous les ans et c'est le révélateur qui nous saute aux yeux de la pression qui s'exerce sur les élèves.
Est-ce que tout ça, c'est finalement un bon système ? Parce que c'est cette plateforme Parcoursup, elle a certainement ses avantages, mais mettre une telle pression sur les épaules de gens si jeunes qui sont en pleine construction, est-ce que c'est pas finalement contre-productif ? Est-ce qu'on ferait pas mieux de moins leur mettre la pression et de proposer peut-être moins de choses, mais finalement...
C'est les laisser respirer, quoi.
C'est un système qui est bon pour personne, ni pour les élèves, ni quelque part pour la façon de construire l'enseignement supérieur, parce qu'on voit bien que les inégalités se sont accrues aussi, et c'est pas bon pour un pays d'avoir un système d'enseignement supérieur qui reproduit les inégalités parce qu'il a été mal pensé. Mais effectivement, la première question à se poser, c'est est-ce que ça permet aux élèves de bien vivre leur scolarité, de vivre sereinement leur scolarité? Non, tout simplement parce que on les empêche d'avoir le droit à l'erreur. Je pense qu'il y a quelque chose de fondamental. Si on veut repenser l'orientation, c'est de dire
d'affirmer
que voilà, les élèves ont le droit de se tromper, que ça c'est pas grave de se réorienter.
Ça se passe comment? Il y a des modèles qui vous inspirent, d'autres pays?
Alors, des modèles peut-être pas, parce que on sent quand même dans d'autres pays, notamment les pays anglo-saxons, quand même une large tendance à la privatisation de l'enseignement et notamment de l'enseignement supérieur, avec ce que ça implique après en termes d'inégalité. Non, aujourd'hui, on a quand même nous la chance d'avoir un service public de l'éducation, un service public de l'enseignement supérieur. Mais aujourd'hui, c'est la logique dans laquelle fonctionnent ces deux services publics qui est problématique, avec d'un côté un manque de moyens, mais vraiment, j'insiste sur le fait que il faut qu'on arrive à pouvoir dire collectivement à nos élèves et à nos jeunes que c'est normal de pas savoir ce qu'on veut faire à 15 ans, que c'est normal de se tromper et que ça doit pas être la fin du monde en leur disant mais tu dois surtout pas te tromper, tu te rends compte, tu vas coûter cher parce que tu te réorientes, etc. Parce que des choses qu'on peut entendre dans les discours politiques. Donc c'est effectivement le droit à l'erreur, ça doit certainement être le fondement de la façon dont on pense.
Et qu'est-ce que vous conseillez aussi aux parents qui nous écoutent, qui doivent être nombreux et qui doivent aussi voir leur enfant et pas forcément savoir quel conseil leur donner ou voir trop leur mettre la pression aussi de l'autre côté?
Oui, c'est deux situations auxquelles on est confronté. Des parents qui, parfois, dès le début de l'année, vous disent « Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Dites-nous, etc. » Là, on essaye à la fois de trouver le bon équilibre entre le fait de dédramatiser, en même temps en étant conscient que pour un parent, c'est quand même un élément décisif. Donc c'est vraiment d'aller vers les sources d'orientation les plus fiables. Voilà, on les met en garde parfois aussi sur ce qu'ils peuvent voir dans les salons, les fameux salons d'orientation qui sont parfois devenus des espèces de grands marchés où vous avez un stand par école et on leur dit attention, voilà ce qui relève des écoles privées, voilà ce qui relève des écoles publiques. On essaye d'être de bons conseils avec la mission qui est la nôtre. Aussi les limites, on cache pas le fait que, en tant que professeur, on n'a pas toutes les clés en main et que c'est par ailleurs un problème.
Vous écoutez France Inter, il est 16h46. L'heure d'ouvrir la pièce jointe de Magnon Marnani. À vous.
Ok. Un documentaire Arte aujourd'hui intitulé « Qu'est-ce qu'on va faire de toi ?» Que pensent les enfants du monde dans lequel ils grandissent? C'est la question au cœur de ce doc. Pendant un an, les réalisatrices Salma Chedadi et Karel Fitoussi ont filmé les élèves d'une classe de grande section de maternelle dans l'école Popincourt dans le 11e arrondissement de Paris, un établissement classé en réseau d'éducation prioritaire. La caméra se place à hauteur d'enfant, on ne voit jamais les adultes, on entend seulement leur voix de temps en temps et les discussions, elles, sont entièrement celles des élèves sur l'amitié, les disputes, l'égalité entre les filles et les garçons, la guerre en Ukraine ou encore les élections. Le film montre une véritable petite société d'enfants où se construisent déjà des idées, des règles et des valeurs. Dans la cour ou en classe, ils apprennent à débattre, à se contredire, à défendre aussi leurs camarades, à dénoncer des injustices. Par exemple, dans une scène, un débat éclate quand un élève estime que la place des femmes, c'est à la cuisine. Et bien, une petite proteste et dit que chez elle, et bien, c'est son papa qui fait la vaisselle. Dans une autre scène, Félix explique qu'il n'aime pas la guerre des garçons, je le cite, et préfère éviter les bagarres. Et puis, le documentaire révèle aussi les inégalités qui traversent l'école, on en parlait. Certains élèves viennent de milieux favorisés, alors que d'autres vivent dans des familles très précaires, parfois logés dans des hôtels. C'est le cas du petit Moussa qui doit quitter sa classe et ses amis parce qu'il est obligé de déménager.
Moi, je pars demain. Je veux aller dans une maison à côté de mon école. Maintenant, je suis passée dans une maison d'un hôtel. On a changé de maison.
On a changé de maison. Au fil des scènes, ce qui devait être un simple film sur l'enfance devient presque un portrait miniature de la société française avec ses tensions, ses solidarités, ses rapports de pouvoir, mais aussi énormément de tendresse. Qu'est-ce qu'on va faire de toi rappelle finalement une chose simple. À l'école, on n'apprend pas seulement à lire et à écrire, on apprend déjà à faire société.
Merci Manon. Sophie Vénédité, on en blaguait tout à l'heure, mais elle vous inspire quoi cette phrase incroyable qu'avait prononcée Elisabeth Borne, comme quoi il fallait songer déjà à l'orientation scolaire dès la maternelle?
Alors, d'abord qu'elle avait raison quand elle disait qu'elle n'était pas spécialiste des questions de l'éducation nationale, ça c'est la première chose. Ensuite, que ça révèle quand même dans l'inconscient collectif le fait qu'il faut choisir le plus tôt possible. Et que finalement, c'est pas un hasard. Après, si on a des politiques qui nous font les réformes qu'on a eues, où il faut choisir très tôt, ça révèle cette idée que vite, il faut se dépêcher de savoir ce qu'on veut faire, y compris avec cette phrase complètement décalée et surréaliste. Mais quelque part, ça explique peut-être les réformes qu'on a eues derrière.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Jusqu'où ira l'intégrisme religieux de Pierre Courade ? Dans l'équipe, nous avons tous été choqués de découvrir cette info hier dans la Dépêche. Dimanche 8 mars, à leur réveil, les riverains du supermarché de l'avenue des Marins, en centre-ville de Châteauroux, ont découvert qu'une grande statue de Bernadette Soubirous avait mystérieusement apparu sur le parking. Une enquête est ouverte pour savoir qui l'a placée là et dans quel but. Nous savons ici, hélas, qui l'a placée là, Pierre Courade, dans le but évident de convertir un maximum de Castelroussins au catholicisme. Jusqu'où ira donc le prosélytisme agressif du disciple de l'abbé Chibrard ? En attendant, Pierre, même si pour vous la seule orientation valable, c'est le séminaire, résumez-nous tout ce qu'on s'est dit sur l'orientation scolaire en une minute chrono, s'il vous plaît.
C'était encore un excellent article que Quentin, lui, aurait pu mettre à l'honneur dans sa rubrique PQR, si vous s'était donné la peine. Évidemment, d'ouvrir le journal de la région Occitanie. Bref, aujourd'hui, on parlait d'orientation scolaire, mais quel enfer, comme dirait Manon Mariani. Les lycéens ont jusqu'à demain pour formuler leurs vœux sur Parcoursup, le 12 mars. On doit savoir ce qu'on veut faire du restant de sa vie, alors même que le casting de la prochaine saison de Secret Story n'a pas encore été finalisé. C'est dur. Pour nous en parler de cette orientation scolaire, on était avec Sophie Vénétité, professeure et syndicaliste. Elle nous a expliqué que les conseillers d'orientation n'existaient plus. Ils ont été remplacés par les psychologues EN, les psys de l'éducation nationale. À eux, la charge d'orienter judicieusement les lycéens vers leur avenir. Des psys, car aujourd'hui, la pression mise par le système Parcoursup fait que les ados peuvent facilement perdre pied. Pourtant, comme nous le disait notre invité, il n'y a pas de psy EN dans tous les établissements. Du coup, les profs sont eux-mêmes mis à contribution. Ils doivent, eux aussi, prendre en charge l'orientation de leurs élèves. Alors on bricole, nous a dit Sophie Vénétité. Enfin, il faut savoir que l'orientation commence dès la seconde, avec les choix des filières qui doivent être en cohérence avec les futurs vœux de Parcoursup, 2 ans plus tard. Et nous, que ferons-nous dans 2 ans ? Quentin aura peut-être enfin empoché son master art de la marionnette à Charleville-Mézières.
Oui, vous aurez le concours d'orthophonie.
Pardon, vous êtes odieux avec lui. Alors c'est vrai que vous avez failli appeler notre invité Bénédicité, ce qui montre encore une fois de plus votre orientation religieuse, c'est vraiment là, tout est dit. Lui, à 42 ans, il a déjà du mal à choisir quel type de bière il veut boire dans un bar. Autant vous dire que choisir une carrière à 18 ans n'a pas dû être simple pour lui. Voici Harold Barbet.
Je n'ai pas choisi ma carrière, Mathieu. C'est ma carrière qui m'a choisi, tout simplement.
Bien sûr.
À la sortie du lycée, je ne m'imaginais pas, moi, troubadour, à arpenter les rues de France et de Navarre, un baluchon sur l'épaule, un modeste quignon de pain comme dîner chaque soir, à me réchauffer les rudes soirs d'hiver en buvant ma propre urine. D'ailleurs, qu'est-ce que
vraiment, ça marche vraiment pas fort.
Ça marche pas fort, en
petite main tendue.
Faut m'aider.
Oui, on est là.
D'ailleurs, qu'est-ce que j'avais fait comme choix, moi, au lycée ? Et puis surtout, bordel, est-ce que je suis même allé au lycée ? J'ai un doute. Moi, j'ai choisi de faire une filière technologique uniquement car le lycée était proche de chez moi, que je pouvais y aller en vélo et rentrer à temps le midi pour regarder Malcolm en mangeant. Alors, ce qui pouvait se passer après le lycée, moi, tant que j'avais une nouvelle saison des Simpsons à la fin, j'étais content. Je me suis toujours demandé, quand on est professeur, si on pouvait tenter d'orienter dans une mauvaise direction auprès de ses parents un élève qu'on n'aimait pas pour se venger. Harold, faut qu'il soit commercial plus tard. Hein. Il a du bagou. On entend que lui, ce petit fils de pute, ce petit génie. Moi, j'ai fait un DUT technique de commercialisation après le lycée. Mon destin, à la base, c'était d'être chef de secteur pour Père Dodu, d'aller de supermarché en supermarché, poser des têtes de gondole en forme de chicken wings, promouvoir la nouvelle recette de cordon bleu, avoir un petit stand devant les pizzas surgelées avec un tablier rouge, une petite assiette blanche en carton avec des nuggets sur lesquels j'aurais passé la matinée à enfoncer des cure-dents et à distribuer aux clients des magnétiques en forme de région de France à coller sur leur frigo. Un petit nuggets, madame ?
Moi, ce qui me ferait plaisir, ce serait le magnétique du Limousin. C'est le seul qui me manque. Vous savez que ma mère était du Limousin. Ah, incroyable. De Chambolive, exactement. Non, fantastique. Chambolive, oui. Vous connaissez le Limousin ? Non, j'ai pas cette chance.
Bien souvent, on ne sait pas quel choix faire après le lycée. Heureusement qu'il y a donc cette fameuse ou ce fameux conseiller d'orientation, ou le nom qu'on lui donne maintenant, pour t'aiguiller. C'est une personne qui ne te connaît pas, qui n'a aucune idée de ce que tu aimes dans la vie, de ce qui te fait vibrer, mais qui va quand même te donner son avis. Un peu comme quelqu'un qui commente sur tes réseaux sociaux, tu vois, c'est à peu près la même logique. J'ai toujours trouvé ça extrêmement aléatoire que l'on puisse conseiller des lycéens sur leur avenir sans vraiment les connaître. Je t'assure, mon bonhomme, comme ta mère est costaricaine, ce sera parfait pour toi de devenir prof d'espagnol. Mais elle n'est pas costaricaine, ma mère, elle est née à Cholet. Ah bon ? Ah ben c'est pas toi, Carlos? Ah bah non, Mathis. Oh mince, crotte de bic. Ah, je me suis mélangé, ça a décalé. Mais alors, du coup, le petit Corentin n'a rien à faire avec les CRS? Bon, tant pis. Le conseiller d'orientation a un double emploi. C'est-à-dire qu'en même temps, il ne faut pas éteindre l'étincelle d'espoir et de vie à l'intérieur d'un jeune de 18 ans. Cette petite flamme s'éteint d'elle-même vers 25 ans. Mais il y a ce côté double discours. Préservons l'espoir, mais garde-fou quand même. Bien sûr, Tiffany, tu peux faire ce que tu veux dans la vie. Moi, je voudrais être médecin. Non. Pourquoi pas astronaute pendant qu'on y est? Non, toi, Tiffany, tu seras aide de vie en maison de retraite. C'est presque pareil que médecin, sauf qu'au lieu de prescrire les suppositoires, c'est toi qui les administreras. La conseillère d'orientation, qui l'a conseillée, elle? Est-ce qu'à la sortie du lycée, elle n'aurait pas rencontré un conseiller d'orientation qui lui aurait dit « Bon, vous ne savez pas quoi faire? Moi, j'étais pareil que vous, je ne sais pas quoi faire. Du coup, j'ai trouvé une technique, j'ai décidé de conseiller les gens qui ne savaient pas quoi faire. Vous allez voir, ça marche très bien. » Moi, ce que je voudrais dire aux lycéens qui sont en pleine réflexion, c'est de ne pas se mettre la pression. Le plus important à retenir, c'est que une nouvelle saison de Malcolm arrive en avril. Concentrez-vous là-dessus, le reste se fera naturellement. J'ai bien fini sur France Inter, moi.
C'est vrai. Merci beaucoup, Harold Barbet. On vous retrouve la semaine prochaine. Et en tournée avec votre spectacle le 20 mars à Rouen, le 26 mars à Paris et le 2 avril à Lausanne.
Chez vous, Mathieu?
Alors, moi, c'est Genève, mais effectivement, sont les voisins. C'est pareil, tout ça. Non, alors, ne leur dites pas Lausanne que c'est pareil. C'est autre chose. Merci, Harold. Merci, Sophie Vénétité, de nous avoir permis de mieux comprendre le fonctionnement de l'orientation scolaire en 2026.
Zoom, zoom, zen.